Alors moi je m'appelle Clotilde Costil, j'ai 22 ans, donc ça fait 2 ans que j'étudie à l'EPJT, donc là je suis en dernière année en licence professionnelle presse écrite web.
Moi c'est Laure Le Fur, j'ai 21 ans et je suis aussi cette année en licence presse écrite et c'est ma première année à l'EPJT.
Ok.
Et Laurent Bigot, donc moi je suis journaliste et enseignant à l'école publique de journalisme de Tours. Je suis responsable de la spécialité presse écrite web.
Presse écrite web, c'est aussi pourquoi vous êtes ici pour Factoscope, puisque c'est évidemment un site web. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'EPJT, peut-être présenter aussi brièvement l'école, parce que évidemment vous la représentez, il faut peut-être en parler.
Oui, alors l'école publique de journalisme de Tours, c'est une des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession. Il y en a 14 en France. C'est une des formations de l'université de Tours et maintenant organisée par la faculté Lettres et Langues de l'université de Tours, puisque l'école de journalisme de Tours vient d'avoir 50 ans et qu'elle est en train de modifier en profondeur son offre de formation. Elle préparait jusqu'à présent des élèves post-bac à un DUT et elle va désormais, à partir de la rentrée de septembre 2018, préparer des étudiants de niveau bac plus 3 à un master de journalisme.
Donc ça c'est tout nouveau. Hein,
ça c'est complètement nouveau, c'est l'actu,
l'actu
chaude de l'école. L'idée c'est désormais de former les gens entre plus 3 et plus 5 après le bac.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de reconnu? Qu'est-ce que ça signifie une école reconnue par la profession? Il y en a 14 en France.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les écoles des formations au journalisme, il y en a peut-être plus d'une centaine en France, mais des formations reconnues par les professionnels du métier, c'est-à-dire par la CPNEJ, hein, la Commission paritaire nationale pour l'emploi des journalistes, il n'y en a que 14. En fait, les professionnels valident le contenu des formations pour s'assurer qu'elles sont à la hauteur, à la fois en termes d'enseignement académique, d'enseignement pratique et de mise à disposition de matériel équivalent à ce que les jeunes trouveront ensuite au sein des rédactions. Donc à partir du moment où on satisfait à tous ces critères-là, on peut devenir une des écoles reconnues. Bon, Tours l'est depuis 1981 maintenant.
Oui, 1981, ça fait un petit moment déjà.
Et voilà.
Ce label, ou en tout cas cette reconnaissance, date aussi de ce moment-là.
C'est-à-dire que l'école a été créée en 68, mais la reconnaissance des cursus a eu lieu en 81.
Pour l'école de Tours ou pour toutes les écoles, pour le coup?
Pour l'école de Tours, la reconnaissance a eu lieu en 81. Après, okay. ça s'est étalé au fil du temps pour les différentes écoles.
Très bien, on va se tourner maintenant vers Laure et Clotilde. Vous allez peut-être nous parler maintenant et introduire ce qu'est Factoscope. Un site internet, on l'a dit, mais encore.
Alors Factoscope, c'est un site de fact-checking politique. Donc le projet, c'est de vérifier la véracité des propos des personnalités politiques qu'on peut trouver dans tous les médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Donc l'objectif, c'est que chaque semaine, donc on a une conférence de rédaction le lundi matin, on propose des phrases qu'on a donc cherchées dans les médias, qui ont été donc affirmées par des personnalités politiques. Si elles nous ont un petit peu interpellé ces phrases, donc on va les proposer à Laurent Bigot qui est notre rédacteur en chef et on va les fact-checker, donc à savoir on va chercher des rapports, des études pour confirmer ou non les propos. Je sais pas si tu peux peut-être compléter Laure.
Oui, ce qui est important de préciser aussi, c'est que le projet Factoscope a été créé l'année dernière puisqu'il y avait les élections présidentielles. Donc le but était de vérifier si les candidats à l'élection présidentielle disaient vrai ou faux. Et donc c'était nos prédécesseurs qui ont créé ce site et nous l'avons repris. Et cette année, on a essayé un peu de changer le design de Factoscope. Ça nous a pris pas mal de temps. Et voilà, donc là, il est prêt depuis il y a un mois, deux mois.
Il est sorti en janvier Début janvier, c'est ça?
Oui.
Alors, tu fais bien de mentionner la date 2017, puisque finalement, il s'appelle aussi Factoscope 2017-2022, en fait. C'est le titre plus ou moins exact, c'est ça, du site?
Oui, oui. C'est-à-dire qu'on est parti sur une première version totalement liée à l'élection présidentielle. Et donc, on avait là une version Factoscope 2017 qui fact-checkait uniquement les propos des 11-12 candidats à l'élection présidentielle. Par la suite, on a souhaité le faire évoluer, le faire durer dans le temps. Et donc, c'est ce que font les étudiantes qui sont là aujourd'hui et leurs camarades pour pouvoir faire une entrée, non pas par personnalité candidate à une quelconque élection, mais par thématique. C'est-à-dire que, par exemple, si on choisit la thématique éducation, on va avoir à l'intérieur tout ce qu'on a vérifié venant de toute personnalité politique, de gouvernement, d'opposition, etc. Mais aussi des choses qu'on a vérifiées nous-mêmes et puis aussi des choses que les autres journalistes fact-checkers français ont vérifiées. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du fact-checking original, produit par les étudiants à l'EPJT, mais aussi on fait de l'agrégation, c'est-à-dire on réunit tout le fact-checking français fait par des médias comme Le Monde, Libération ou d'autres. Ce qui fait qu'on est finalement la seule porte d'entrée, la porte d'entrée un peu unique vers l'ensemble du fact-checking français.
Alors du coup, justement, en termes d'équipe, en termes de nombre d'étudiants qui sont consacrés à ce projet, ça donne quoi? Parce que évidemment, checker toutes ces informations, etc., ça demande du temps, ça demande aussi un peu d'investigation, de recherche, etc. Combien vous êtes en tout?
Donc, comme on le disait tout à l'heure, on est 11. Après, on se répartit chaque média, donc... on a tous un média attitré et après chacun aura un poste prédéfini selon les semaines. Il y en aura un sur les réseaux sociaux pour relayer, un autre parce qu'on a aussi un blog sur Le Monde qui est hébergé par le site Le Monde, donc un autre qui va s'occuper du côté blog à alimenter chaque semaine. On a chacun un poste attitré en fait, donc c'est assez bien organisé, on arrive à gérer
tout ça. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un terme qui finalement nous parle pas forcément, ou en tout cas pas forcément à tous, c'est ce fact-checking. Qu'est-ce que ça signifie au fond de fact-checking? Alors si on traduit littéralement, c'est vérifier les faits, hein, évidemment. Mais qu'est-ce que ça signifie et depuis quand est apparu ce terme?
Alors, le fact-checking, effectivement, c'est pas un terme qui parle forcément au grand public. Ça, c'est réel. Alors, il s'agit donc de vérification des faits. C'est un terme qui nous vient du monde anglo-saxon, hein, et des médias anglo-saxons et notamment américains, puisque ce terme-là, il est apparu autour des années 20, 1920. Aux États-Unis, et en fait ça désignait le fait de vérifier tout le contenu des médias eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple tout le contenu d'un magazine avant sa publication. Voilà, c'était ça au début, le travail des fact-checkers. Ils étaient dans les rédactions, ils vérifiaient tout ce qui allait paraître pour être sûr qu'il n'y avait pas de bêtises dans les articles en question. Bon, voilà, ça existe toujours aux États-Unis, mais ça se fait beaucoup moins. Et puis à partir des années 2000 aux États-Unis, on est passé sur une version différente du fact-checking, avec des sites internet cette fois-ci qui prétendaient vérifier la parole des politiques, justement. C'est-à-dire voilà, écouter les interviews des politiques, chercher à l'intérieur si il n'y avait pas de contre-vérité, et ensuite montrer ou démontrer qu'on avait justement cette contre-vérité à l'intérieur des discours. Donc ça a éclos aux États-Unis, puis ensuite c'est arrivé en France avec Désintox, la rubrique Désintox du journal Libération en 2008, et puis ça s'est développé au Monde en 2009, dans des radios en 2012, etc. Et aujourd'hui on retrouve ça un petit peu partout. Il y a du fact-checking politique, c'est ce qu'on fait nous dans Factoscope, et puis il y a du fact-checking plus global qui revient à contredire des rumeurs que l'on trouve notamment sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup véhiculées par les réseaux sociaux, et notamment ce qu'on a appelé les fake news, qui est bon, là plutôt un terme qu'on a beaucoup entendu,
très américain aussi,
à tort et à travers, voilà, qui oui pour le coup voilà a été employé plutôt au Royaume-Uni la première fois, mais voilà qui qui traduit là plus des contre-vérités, mais pas forcément politiques, des choses parfois totalement absurdes d'ailleurs, mais que les journalistes ont aujourd'hui besoin de plus en plus de vérifier. Et finalement, le travail des rédactions, hein, de l'ensemble des rédactions, se tourne toujours davantage vers ce service rendu à la population de vérifier pour elle tout ce qu'elle peut trouver et sur les réseaux sociaux et sur d'autres sites internet.
En tout cas, excepté ce que vous venez de dire, les années 1920, on se rend compte finalement c'est dans les années 2000, et surtout grâce, on va pas se le cacher, à Internet, que ce fact-checking aussi est possible.
Oui.
C'est tout à fait lié entre le...
Oui, parce qu'il y a plusieurs phénomènes conjugués, mais notamment des phénomènes d'accélération, non seulement du rythme de l'information, mais d'accélération des capacités, des possibilités de vérification de l'information et d'accès à des informations en ligne. Qui n'était pas forcément faisable dans les mêmes conditions de rapidité avant. Donc, bien sûr, on court toujours après les contre-vérités, parce que entre le moment où la personne va asséner une fausse info ou poster une rumeur, et le moment où les journalistes auront vérifié, bon, il va toujours se passer un petit peu de temps, mais néanmoins, on est aujourd'hui davantage, bien sûr, en capacité d'aller vérifier facilement ce que dit un homme politique est vrai ou faux.
Alors justement, en parlant de ça, Laure et Clotilde, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites et où vous cherchez les informations pour finalement confirmer ou pas d'ailleurs les propos des politiques? Comment vous faites? Est-ce que c'est difficile de chercher justement ces informations? Comment, quelles sont vos astuces pour ça?
Bah, en fait, tout dépend de la phrase aussi. Il y a certaines phrases, ça va être assez simple de vérifier, d'autres, ça va être plus compliqué.
Comme laquelle, par exemple? Est-ce que tu as des exemples à donner? Par exemple, ce matin, en conférence, vous vous êtes dit quoi?
Alors, moi, j'avais une phrase de Marine Le Pen qui s'exprimait sur Europe 1 hier, qui a déclaré que la baisse du nombre de décès sur les routes était palliée aux sanctions et aux radars, mais aux investissements sur le réseau routier, et ça s'est avéré être faux. Donc moi, je suis allée chercher du côté des rapports officiels, en fait, qui ont été donc soit commandés par l'Observatoire national de la sécurité routière. Enfin, il y a plusieurs instituts qui y rentrent en compte, donc qui sont considérés comme officiels, enfin qu'on peut
vers lesquels on peut, ou des études internationales,
vers lesquelles on peut se référer. Donc, voilà, c'est globalement le travail qu'on peut faire. Après, souvent on fait aussi appel à des experts pour appuyer nos propos, et donc là ça nous donne un peu de la matière, des interviews qu'on peut ajouter à notre texte aussi.
Et pour ce qui est plus dur à vérifier, vous laissez tomber ou vous accrochez, vous essayez quand même de trouver des réponses aux affirmations des hommes politiques?
Bah, parfois les ministères qu'on va contacter vont pas forcément nous répondre, donc on va tout faire pour les relancer et aller jusqu'au bout de la recherche. Après oui, quand ça n'aboutit pas, on laisse tomber effectivement.
Oui, voilà, parce que on peut pas tout vérifier non plus, c'est compliqué.
On peut.
Chacun en plus a ses chiffres différents, a ses versions et ses sources différentes.
Si on ne parvient pas à un résultat satisfaisant, l'idée c'est de ne pas publier, parce que bien évidemment, il s'agit pas de d'embrouiller davantage le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur qui aurait vu passer l'information en lui redonnant une information approximative. Donc l'idée, il y a d'ailleurs une charte éditoriale très très clair et très détaillé sur le site de Factoscope qui explique notre façon de procéder. Et c'est vrai que dès qu'on voit que ça devient un petit peu bancal, ou dès qu'on voit même que le travail des autres rédactions, c'est-à-dire, puisque je vous ai dit qu'on agrégeait les contenus des autres rédactions qui font du fact-checking politique en France, mais si on voit que par exemple même un papier du Monde nous semble un petit peu bancal sur le fond, on ne va pas l'agréger par exemple.
Okay.
Voilà, donc on ne fait que rassembler des articles très fiables et produire des articles les plus fiables possibles aussi. Et dès qu'on voit que ça ne fonctionne pas comme on veut, ou que ça pourrait prêter à confusion, on préfère abandonner en effet.
Est-ce que vous en inspirez d'ailleurs des autres sites de fact-checking en France, ou en tout cas des autres sources comme ça, comme Le Monde, comme comme tous ces sites-là.
C'est-à-dire que le travail des étudiants qui sont sur Factoscope a consisté au moins au début de la démarche, que ce soit l'année dernière ou cette année à nouveau quand on a refondu le site, à faire l'état des lieux un peu de ce qui se fait un petit peu partout, à regarder quelles étaient les procédures, y compris aux États-Unis d'ailleurs, ou la façon de présenter les résultats du fact-checking, parce que l'originalité aussi d'un site comme celui-ci en termes de journalisme, c'est de trouver une façon de présenter les choses au lecteur qui soit la plus claire possible. Hein, c'est pas du reportage, c'est pas du commentaire, c'est vraiment des faits et exprimés d'une façon particulière.
Oui, et on y reviendra aussi tout à l'heure plus précisément, mais vous expliquez à chaque fois, évidemment, pourquoi c'est faux ou pourquoi c'est vrai dans un article, en fait. C'est pas vrai ou faux.
On redonne la phrase qui a été prononcée. Quand elle a été prononcée dans un média audiovisuel, on met le son pour que la personne qui nous lit puisse réécouter le son, le politique tel qu'il a dit les choses, pour pas que ça porte à confusion. Ensuite, on a un petit chapeau de présentation, un court paragraphe qui dit en gros ce qu'on a trouvé. On a ensuite un élément de contexte qui remet la phrase dans son contexte, à quel moment elle a été dite, pourquoi elle a été dite à ce moment-là, dans quel média elle a été dite, face à quel journaliste, etc. Mmh. Et puis ensuite, on a effectivement toute une partie explication qui peut comprendre des données chiffrées, qui peut comprendre des graphiques, des illustrations autres, et un maximum de détails, mais le mieux organisé possible pour que la personne ait une explication et une idée claire à la fin sur le sujet.
Surtout aussi, ce qui est important, c'est qu'on met clairement nos sources. Qu'en fait le lecteur peut aller lui-même regarder dans le rapport pour voir si nous-mêmes on ne s'est pas trompé.
En parlant de ça, est-ce que vous êtes déjà trompé? Est-ce qu'un élève s'est déjà trompé et le politique ou le service de communication de cette personne en question vous a fait remarquer la faute? Est-ce que c'est déjà arrivé?
Alors, il y a pu y avoir, alors cette année-là, non, pas à ma connaissance, mais il y a pu y avoir, oui, effectivement, quelques échanges un petit peu plus costauds au moment de la présidentielle l'année dernière. Pour éviter au maximum les erreurs, on a par ailleurs un mode de travail donc très particulier, c'est-à-dire que l'étudiant va chercher l'information, se fait ensuite relire par un camarade qui refait la vérification lui-même, donc en fait elle est doublée,
okay.
Et puis ensuite moi je regarde l'article. Et à nouveau, si quelque chose pose un problème, on recommence le processus, quoi.
Donc il y a trois phases de vérification.
Exactement. Et comme on est dans un média qui reste un média école tout de même, on essaye de pas se donner forcément de notions de productivité ou se forcer à produire un article chaque jour, etc. Enfin, rien de cet ordre-là. On peut se le permettre puisqu'on est d'abord une école. Et donc, ça nous permet aussi de garantir qu'à la fin, on a quelque chose qui nous donne satisfaction et qui, a priori, ne mérite pas trop d'être discuté par l'un ou par l'autre.
Et je le précise aussi, d'ailleurs vous le dites très bien dans votre charte, vous faites évidemment du fact-checking de politique, ou en tout cas de paroles dites par les politiques, mais c'est évidemment en toute indépendance, sans prise de considération en tout cas des partis ni rien. Faut aussi le préciser ça, et je pense que c'est important de le dire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va pas forcément chercher à faire dire vrai à un parti ou à un candidat donné. Et c'est vrai que voilà, si la personne soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, si elle a dit vrai, elle a dit vrai. Si elle a dit faux, c'est pareil. Donc on va chercher effectivement à être les plus neutres possibles. Et on essaie même de faire mieux que ça. C'est-à-dire que comme on rassemble tout le reste du fact-checking français, quand on voit que les autres journalistes sont pas trop allés vers tel ou tel parti ou vers tel ou tel sujet, on va essayer, nous, de corriger le tir avec ce qu'on nous on va proposer. Donc pour avoir sur le site comme ça un panorama un peu plus lissé de ce que disent les uns et les autres, et quand ils disent vrai et quand ils disent faux. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de faire quelque chose le plus neutre possible. Ouais, tout à fait.
Quand vous étudiez le journalisme, il faut être au courant de l'actualité. On va faire un petit quiz sur l'actualité. Est-ce que vous êtes prête?
Non. Oh oui.
ça a pas l'air, mais bon, je vais mettre le jingle et je vous pose ces petites questions. C'est parti.
Thank you.
Alors, première question. Il faut que je me retrouve du coup dans mes questions parce que voilà, c'est une info qui est tombée aujourd'hui. C'est pas vraiment, ça a pas vraiment de catégorie. Enfin, vous allez comprendre tout de suite. Qui a annoncé aujourd'hui contester le testament laissé par un certain Johnny Hallyday?
Laura Smet.
Les enfants, oui.
Laura Smet
et David Hallyday.
Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez la raison?
Parce qu'il a mis en exclusivité, on va dire, sa femme Laetitia sur le testament.
Il a déshérité ses enfants, ce qui est impossible en France, mais il me semble que son testament a été fait en Californie, non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça.
Alors tu vois, tu me poses une colle, c'est probablement ça.
En France,
ça.
On peut pas déshériter ses enfants, je me suis renseignée.
Fact-checking.
Voilà, fact-checking, exactement. Deuxième question, il s'agit de culture. Très récemment, un célèbre cuisinier français est décédé à l'âge de 91 ans. Est-ce que vous avez son nom?
Oui, c'est Paul Bocuse.
Paul Bocuse. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'étoiles au Michelin il avait?
Il me
pour
semble
son restaurant
qu'il en avait
à Lyon, en tout cas
3 ou 4. 3.
Ouais, effectivement.
Et c'est pas à Lyon, pardon, je vous coupe.
Non, c'est à
Collonges-Romondor.
Ouais, effectivement, c'est à côté de Lyon. Pendant 53 ans, les 3 étoiles, c'est assez, assez énorme. Voilà. Troisième petite question. Je me perds dans mes fiches. Je vais retrouver quand même une troisième question à vous poser. Où suis-je? Oui, question sport. Qui a remporté aujourd'hui? Alors, on a parlé de Martin Fourcade en début d'émission pour l'éphéméride, mais on va parler d'une autre biathlète qui a remporté aujourd'hui la médaille de bronze de la poursuite. C'est une Française.
Tu vois son nom passer, mais... Je sais qu'il y avait Perrine Lafont hier, mais après...
Ouais,
en ski
cross, enfin en bosse, quoi, oui. Pour être précis. Oui. Aujourd'hui, c'est Anaïs Bescon qui a remporté la médaille de bronze juste avant Martin. C'était juste avant la course des hommes. Dernière petite question, il s'agit de musique. Est-ce que vous avez suivi les victoires de la musique?
Un petit peu, oui.
Ah bah ça va être facile alors. Qui a été élu artiste masculin de l'année aux victoires de la musique?
Je crois pas.
Orelsan.
Féminine, je sais que c'est Charlotte Gainsbourg, mais...
Ouais, et masculin, on
ou
a
alors c'est
Orelsan.
C'est peut-être Julien Doré, non, c'est pas...
Eh bien, c'est Orelsan, effectivement, c'est bravo, Orelsan, voilà, élu artiste masculin de l'année. Bah voilà, c'était pas si terrible que ça, le quiz.
Non, ça va.
Je vous avoue qu'il y avait une ou deux autres questions qui étaient très très dures, j'avais presque honte de les poser, mais je l'ai pas fait, donc voilà.
Avec les étudiants de PJT, on peut tout oser.
Je vous ai parlé. Non, mais voilà, vous êtes très au point, en tout cas, sur l'actualité, et c'est tant mieux. On va revenir maintenant sur le site factoscope.fr. J'ai vu passer sur ce site internet un mot qui m'a frappé, factoscopé. J'ai vu ça quelque part, alors je pourrais plus vous dire le contexte exact. Qu'est-ce que ça signifie, factoscopé, du coup, dans votre définition du site?
C'est un néologisme créé par et pour factoscope. Je sais pas, je suis pas au courant de ce terme.
On l'a peut-être laissé ça quelque part, effectivement, sur le site.
C'était entre guillemets, je tiens à préciser.
Voilà, en essayant de fabriquer, effectivement, un néologisme autour de l'activité du site, le factoscope, c'est l'observation des faits et le fait de scruter les faits dans chacune des déclarations. Donc factoscopé, ça semble devoir aller avec. Bon, nous n'aurions peut-être pas dû, mais c'est l'enthousiasme.
Alors ce projet, est-ce que vous pouvez nous parler de la suite, comment ça va s'axer? Parce qu'on a l'impression un peu avec le titre, notamment 2017-2022, que ça va s'arrêter en 2022. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous êtes finalement, vous dites c'est quelque chose qui va continuer après? Alors je sais que c'est pas pour tout de suite, 2022 évidemment, c'est dans 4 ans, mais est-ce que vous y pensez déjà?
Disons que 2022 c'est plutôt l'horizon, plutôt que la fin, hein, c'est l'horizon de la prochaine présidentielle, et l'idée c'était de trouver là une formule de factoscope qui permette de travailler pendant cette période du quinquennat, sans avoir cette confrontation de personnalités autour d'un projet présidentiel. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, pendant tout ce temps-là, il va quand même y avoir des déclarations politiques, il va quand même y avoir des débats sur des questions de société ou d'autres, d'économique, etc. Et il faut qu'on puisse, à notre façon, en rendre compte et assumer un petit peu ce rôle de vigie, finalement, face aux déclarations des politiques. Donc voilà, c'est ce que ça semble indiquer 2022, c'est fait pour ça. On verra comment on fera évoluer Factoscope pendant ces 5 années-là, mais disons qu'on est en ordre de marche, au moins jusqu'à 2022 et probablement au-delà, parce que c'est un projet qui fait parler de l'école, certes, mais qui fait aussi parler de lui. Et qui d'ailleurs même a aussi remporté quelques prix.
Des prix. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler tout ça, ces prix remportés par Factoscope?
Alors, principalement, oui, avec plaisir d'ailleurs, mais principalement, il y a eu deux prix. Le premier, c'est un prix qui nous a été remis par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui était un certificat d'excellence sur la notion de pédagogie innovante pratiquée pour créer Factoscope. Alors pourquoi pédagogie innovante? Parce qu'en fait, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est la co-construction de l'outil de formation qu'est Factoscope par l'enseignant, bon, en l'occurrence moi, et les étudiants eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sans cesse appelés à réfléchir, à produire de nouvelles idées pour se mettre à la place des lecteurs, essayer de voir ce qui pourrait convenir, ce qu'on pourrait créer, ce qu'on pourrait faire de nouveau qui ne se fait pas ailleurs dans le journalisme. Mmh. Et donc, c'est en ce sens-là que l'innovation pédagogique a été récompensée. Le deuxième prix, c'est un prix, lui, plus professionnel, sur l'aspect plus professionnel des choses, qui nous a été remis assez récemment par France Info, donc le média France Info, qui organise chaque année des conférences et remet des prix à cette occasion. Donc, ça s'appelle New Storm. Et donc, le prix New Storm, la mention étudiante du prix New Storm, cette année, qui est donc appelait toutes les écoles de journalisme à candidater, a été remis à l'EPJT et à l'équipe de Factoscope.
Ok, félicitations.
Merci.
J'aimerais qu'on revienne sur l'aspect très technique du site. Je vais peut-être me tourner vers vous, Laure et Clotilde, notamment sur ce que propose Factoscope.fr. Vous avez mis des quiz, notamment sur Factoscope.fr. Enfin, il y a un onglet quiz.
Oui,
c'est alors, ça. Est-ce que c'est voulu?
Alors, en fait, il y a deux choses. Factoscope.fr est un site à lui tout seul, mais il est imbriqué dans un autre site de l'EPJT qui s'appelle Les Rattrapages de l'Actu. Et qui lui propose donc chaque semaine un résumé de l'actualité et propose également des quiz associés à ces résumés de l'actualité.
Ok, donc voilà. C'est deux entités.
Ce sont deux entités distinctes, mais quand même imbriquées l'une avec
d'accord.
L'autre. Voilà.
D'où ces fameux quiz. On va accueillir Julie déjà. Pardon, Julie. Salut, Julie.
Salut, Nathalie.
J'ai oublié de te présenter à nos auditeurs, bon, qui ont l'habitude hein, de te voir tous les jours ici. Bienvenue à toi.
Merci.
On va terminer cette interview peut-être par parler des portes ouvertes,
oui,
en faisant la liaison.
Tout à fait. Alors,
pour l'EPJT, hein, évidemment.
Pour signaler, oui, peut-être que l'école publique de journalisme de Tours va ouvrir ses portes en même temps que les autres formations de l'université de Tours ce samedi 17 février, entre 9h et 16-17h, pour présenter ses formations et notamment donc sa nouvelle formation, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, l'école ouvre un master de journalisme à partir de septembre 2018 et que les candidatures, la période des candidatures est déjà ouverte. Mmh. Donc pour tous ceux qui souhaitent se renseigner pour cette nouvelle offre de formation à Bac+5, eh bien ce sera possible de le faire et de nous rencontrer et de rencontrer aussi les étudiants qui sont là et d'autres samedi 17 toute la journée.
Et pour ceux qui veulent vérifier les paroles des politiques ou voir si qui a tort, qui a raison, c'est sur factoscope.fr du coup que ça se passe. Hein, que je dis pas de bêtises.
Exactement, c'est factoscope.fr, voilà. Comme ça se prononce. Et par ailleurs, pour avoir d'autres éléments sur l'école de journalisme, c'est epjt.fr.